déclic, lire la Bruyère avec Laurence Plaznay et Jean-Michel Delacomté. J'ai appris, en lisant le dernier livre de Jean-Michel Delacomté, La Bruyère, portrait de nous-mêmes, qu'Éric Rohmer avait filmé en 1965 des comédiens incarnant certains personnages et caractères avec la voix hors champ d'Antoine Vitez. Ce film était destiné aux élèves des lycées, car à l'époque, on étudiait encore La Bruyère en classe. Est-ce à dire qu'on ne le fait plus? Sans doute. Mais il ne faut pas noircir le tableau. En effet, La Bruyère est cette année au programme des agrégations de lettres modernes, de lettres classiques et de grammaire. Les futurs professeurs seront donc peut-être amenés à présenter le film de Rohmer à leurs élèves. En attendant, nous allons accueillir La Bruyère dans Réplique avec Jean-Michel Delacomté et Laurence Plaznay qui préparent les agrégatifs. Et comme ce ne sont pas seulement des professeurs et des étudiants qui nous écoutent, c'est tout un chacun. Ma première question sera naïve. Pourquoi tout un chacun, aujourd'hui, devrait-il lire les caractères, Jean-Michel Delacomté?
Je crois qu'il faut une réponse assez énergique. C'est-à-dire que il y a une nécessité de ne pas oublier d'où nous venons. C'est-à-dire, sur le plan littéraire, de ne pas oublier que nous venons aussi bien du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe et des siècles précédents dont nous sommes les héritiers. Et La Bruyère en particulier présente un avantage ou un intérêt tout à fait marqué. D'abord, c'est un homme qui a une langue tout à fait puissante, tout à fait originale et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Il faut rentrer dans La Bruyère de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas que ça. C'est essentiel. Lorsque Barthes dit que La Bruyère est le premier de nos écrivains, il n'a pas tort, tant s'en faut, c'est un styliste. Mais également, il y a l'arrière-fond qu'on découvre chez lui, qui est un arrière-fond historique, qui est un arrière-fond moral. Et de telle manière, d'ailleurs, que si j'ai intitulé mon propre livre « Portrait de nous-mêmes », c'est qu'il nous renvoie une image de nous-mêmes qui correspond précisément à l'image qu'il voulait donner au public de son époque, le miroir qu'il voulait lui tendre, le portrait qu'il voulait en dresser. Et donc, lire La Bruyère, c'est nous lire nous-mêmes, nous interroger sur nous-mêmes. C'est un tremplin pour nous connaître. Et ne serait-ce que pour ces raisons, il me paraît tout à fait indispensable de le lire. Ce qui pose la question de savoir, d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler, comment le lire et comment transmettre cette lecture. Comment donner aussi le goût de lire? Parce que je n'oublie pas du tout, vous avez raison de noter, et c'est vrai que c'est positif, que pour l'agrégation, cette année, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas, hein, si je ne m'abuse.
C'est 91.
91. Donc, c'est une résurrection presque, tout à fait heureuse. Mais donc, pour les étudiants, c'est tout à fait essentiel. Et puis, d'une façon plus générale, lire La Bruyère et revenir notamment au XVIIe siècle, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas fait aujourd'hui, enfin, ou hier, des études de lettres, de se familiariser avec une pensée qui est en même temps lointaine et en même temps proche de nous. Voilà ce que je dirais en première analyse.
D'accord. Alors, vous dites dans votre livre, vous opposez Montaigne et La Bruyère. Montaigne qui veut se peindre lui-même, tout nu, alors que La Bruyère tend un miroir à son public, et c'est ce qu'il le dit, c'est ce qu'il dit tout de suite. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste qu'ayant achevé avec toute attention pour la vérité dont je suis capable, je lui en fasse la restitution. Donc voilà, portrait de son public, et dites-vous, portrait de nous-mêmes, c'est-à-dire du public que nous sommes aujourd'hui. Nous verrons si c'est vrai, mais je pose la même question à Laurence Plaznay.
Je crois que d'abord il faut le lire parce que c'est beau. C'est une langue qui est absolument magnifique, qui transporte, et puis c'est une fête de l'intelligence. Les portraits de La Bruyère ne sont pas un texte qui se donne à lire spontanément. C'est une espèce de rébus, ce sont souvent des charades, des petites énigmes. Et on ne peut pas lire les caractères du début à la fin de manière linéaire et ininterrompue. C'est un livre sur lequel il faut s'arrêter, revenir, vagabonder. Et à chaque fois, se demander pourquoi tel trait, pourquoi telle chute, pourquoi telle pointe intervient à un moment donné. Donc c'est un livre pour éviter d'être Alzheimer, d'avoir Alzheimer. Ça rend intelligent, ça vous oblige à penser. Et c'est très précieux, me semble-t-il.
Pour la beauté de la langue, je citerai l'une des maximes des caractères dans Delacour, qui annonce un peu d'ailleurs le XVIIIe siècle. Les caractères ont été publiés en 1685. L'on parle d'un pays où les vieillards sont galants, polis et civils. Les jeunes gens, au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse. Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes dans un âge où l'on commence ailleurs à la sentir. Ils préfèrent des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui ne se n'ivre que de vin. L'usage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux de vie et par toutes les liqueurs les plus violentes. Ils ne manquent à leur débauche que de boire de l'eau forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu'elles croient servir à les rendre belles. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout, je devrais le faire d'ailleurs, parce que à la fin, il parle du temple où un autel est consacré à leur dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel et paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et au saint mystère, et les faces élevées vers le roi, que l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui il semble avoir tout l'esprit et tout le cœur appliqué. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordination, car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment trois astérix. Il est à quelque 48 degrés d'élévation du pôle et à plus de 1100 lieues de mer des Iroquois et des Hurons. On sait l'usage que le 18e fera des Iroquois et des Hurons. C'est de son monde que parle la Bruyère, avec un certain courage, me semble-t-il, puisque il met en cause la divinisation du roi. Alors, qu'est-ce à dire, Laurence Blasnay?
Il y a manifestement chez La Bruyère un discours qui est une opposition très nette à l'absolutisme de Louis XIV, qui est une réflexion sur l'absolutisme, sur le pouvoir solitaire que le roi est en train d'exercer. La Bruyère s'élève avec Bossuet et avec un certain nombre de contemporains contre la dissolution du pouvoir des corps intermédiaires qui lui semble absolument nécessaire dans l'équilibre politique du pays. La Bruyère n'est pas le seul. Beaucoup de proches, par exemple, du monastère de Port-Royal vont tenir un discours comparable. L'idée qu'un seul homme concentre tous les pouvoirs et probablement aussi qu'il se situe, comme dans le fragment que vous venez de lire, entre le peuple dans son ensemble et Dieu, constitue un scandale au nom de la rigoureuse égalité chrétienne.
Oui, le texte que vous avez lu, je le trouve, il fait partie de... Ils sont nombreux dans les caractères, mais il fait partie des textes les plus importants, selon moi, pour plusieurs raisons. D'abord pour la raison que vient de dire Laurence Blasnay, mais aussi parce qu'il y a derrière ça, il y a une indignation. Et ce mot, dans sa situation à La Bruyère, a beaucoup de sens. C'est un révolté, La Bruyère. C'est un homme de sensibilité profonde. Et quand j'ai dit indignation, et même notamment contre le pouvoir d'un seul, contre cet absolutisme, il y a un texte qu'on aura peut-être l'occasion de lire, qui est absolument extraordinaire, et qui me rappelle, moi, tout à fait la Boétie. Il y a, curieusement, vous parliez de Montaigne tout à l'heure, il connaissait parfaitement bien Montaigne, La Bruyère. C'est étrange à dire, peut-être, mais il y a un écho de la Boétie chez La Bruyère, il y a des passages, il y a un passage notamment, à la fin du chapitre des jugements, qui pour moi est évident. On entend ça, si vous me permettez de lire. Lorsqu'il dit... Quand on connaît le discours de la servitude volontaire, on ne peut qu'entendre ça. Il faut lire La Bruyère, il faut l'entendre, il faut l'écouter. C'est une voix, c'est pour ça que vous parliez de Romère tout à l'heure. C'est un auteur qu'il faut écouter par l'oreille. Il faut le lire avec les oreilles, si je puis dire. Mais qu'entends-je de certains personnages qui ont des couronnes? Je ne dis pas des comtes ou des marquis dont la terre fourmille, mais des princes et des souverains. ils viennent trouver cet homme, c'est Guillaume d'Orange au moment de la guerre entre la France et l'Europe coalisée. Ils viennent trouver cet homme dès qu'il a sifflé. Ils se découvrent dans son antichambre et ils ne parlent que quand on les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leur rang et sur leur préséance et qui consument pour les régler les mois entiers dans une diète, etc. Il dit, mais qu'entends-je de certains personnages qui ont des couronnes? Ça, c'est la Boétie, typiquement. Oui, simplement, j'ajoute, pourquoi est-il indigné comme ça? Pour des raisons politiques, mais aussi dans le passage que vous avez lu, ça concerne la cour, mais la cour telle qu'il la connaît, les grands, c'est-à-dire le jeune homme pour lequel il servait de précepteur, dont il a terriblement souffert. La Bruyère, c'est un homme humilié par les grands. On dirait aujourd'hui par les élites, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il dit quelque part, moi je veux être peuple. Et donc, tout ce passage-là rassemble, et c'est ça qui est formidable chez lui dans ses grands passages, il rassemble plusieurs thèmes.
Il a été donc le précepteur du duc de Bourbon, le petit-fils du grand Condé, si je ne me trompe.
C'est ça, absolument.
Et d'ailleurs, Jean-Michel de la Comté, vous dites quelque chose de très intéressant sur ce duc de Bourbon. Il s'instruisait au ralenti, traînant son déplaisir et ses mous d'ennui. La Bruyère s'ingéniait à lui remplir la caboche d'un minimum de connaissances que le rêvasseur oubliait sitôt enseigné. Mais ce que j'apprends, c'est que le jeune duc, à 15 ans, n'en savait pas plus qu'à 10, un bon élève du collège jésuite de Clermont, futur lycée Louis-le-Grand, où il avait suivi ses études jusqu'en classe de philosophie et où, en sa qualité princière, choyé au-delà du convenable, il trônait sur un siège surélevé devant ses condisciples.
Oui, tout à fait.
Et donc il a eu maille à partir avec lui, et dans la maison de Condé, il était, vous dites, souvent moqué par les grands.
Oui.
Il a eu en souffrir.
Ah, il en a, à mon avis, terriblement souffert. À ce propos, il a d'ailleurs une remarque absolument... absolument terrible. Il dit que la raillerie, c'est quasiment la pire des blessures qu'on puisse inspirer à quelqu'un. Parce qu'on n'a plus de refuge. On est confronté à soi-même, on n'a plus de sauvegarde. Et qu'il ait souffert de cette situation, ça peut sembler bizarre quand même, parce que il était précepteur, donc on peut se dire, dans cette grande famille, chez les grands, il avait une position qui était enviable, semble-t-il. Eh ben, pas du tout. Le précepteur se trouve dans une situation presque de domestique. Pas loin, en tout cas. Et donc, il a souffert de... Et le passage que vous avez lu, on voit très bien ce qui s'est passé. Il était raillé, il était moqué, il était humilié. Tout à
et
fait clairement.
Il dit ceci dans le chapitre de l'homme. La moquerie est de toutes les injures.
Voilà.
Celle qui se pardonne le moins, elle est le langage du mépris et l'une des manières dont il se fait le mieux entendre. Elle attaque l'homme dans son dernier retranchement, qui est l'opinion qu'il a de lui-même. Elle veut le rendre ridicule à ses propres yeux, et ainsi elle le convainc de la plus mauvaise disposition où l'on puisse être pour lui, et le rend irréconciliable. Il est très intéressant de voir que la Bruyère s'inscrit dans une tradition de civilité qui est celle de la fine raillerie.
Absolument.
Il est pour une raillerie fine qui, d'une certaine manière... peut attaquer un certain nombre de vices sans blesser les personnes. Et c'est, je le crois, le sens de l'exergue ou de l'épigraphe d'Érasme qu'il donne à ses caractères. Cet épigraphe dit ceci, « J'ai voulu avertir et non mordre, être utile et non blesser, servir la moralité et non lui faire obstacle. »
Exactement.
Est-ce qu'il y réussit, Laurence Plasnet?
Oui, puis ça se situe aussi dans un... contexte de discussion de la raillerie, de la polémique, du comique violent qui suit les provinciales. On est moins de 30 ans après les provinciales et l'usage du comique, de la vis comica dans des polémiques est quelque chose qui a été très amplement débattu, qui a des résonances chrétiennes, dont ça fait sens aussi de cette manière chez la Bruyère. On peut utiliser la raillerie, mais ne pas détruire les individus par cette raillerie qui serait à ce moment-là antichrétienne. On sait que la mère Angélique, par exemple, a été très critique à l'égard des provinciales, alors même que ça a été un énorme succès pour le groupe autour de Port-Royal. Et on comprend aussi la Bruyère de cette façon, dans cette tradition-là.
Oui,
la question de son efficacité, les portraits sont terribles, mais... il faut se souvenir que ce sont des portraits qui instituent une distance avec les sujets. Les contemporains ont été chercher des clés, parce que c'était un moyen de scandale et évidemment de presse, d'amusement du public. Mais dans l'écriture même, ce que nous devons retenir, c'est que jamais les noms propres ne sont employés, qu'il y a toujours un petit détail qui diverge par rapport à la personne réelle à laquelle on pourrait songer, que la Bruyère prend soin d'aller donner parfois à ses personnages des noms qui sont des noms à l'antique, ce qui postule la distance. Et une forme d'éternité ou d'historicisation qui ne permet pas justement de dire c'est un tel et on a voulu le pulvériser. Donc je crois que cette attention doit être prise en compte si on veut essayer de comprendre ce que fait la Bruyère. C'est extraordinairement violent, mais en même temps, justement, on se garde d'attaquer précisément une personne.
On se garde d'attaquer une personne, c'est ce qu'on appelait aussi... au XVIIe siècle, dans la lignée du courtisan de Castiglione, la bonne raillerie, Guès de Balzac, la bonne raillerie est une marque de bonne naissance et de la bonne nourriture. Elle est un effet de la raison vive et réveillée, instruite par l'étude et polie par le grand monde. Elle ne choque ni la coutume ni la bienséance. Mais alors, d'un autre côté, alors moi ça me fait penser à beaucoup plus loin, à Verlaine, fuit du plus loin à la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur, qui font pleurer les yeux de l'azur, et tout cette taille de basse cuisine. Il n'empêche. Il n'a pas donné les noms, mais on a lu les caractères qui ont aussi eu un succès dès leur parution, comme une sorte de livre à clé. On a cherché derrière les noms Théobald et autres, inventés par la Bruyère, qui se cachait. C'était quand même un jeu de société au moment de la publication du livre.
On fait la même chose pour les romans de Mademoiselle de Scudéry. Alors même que parfois, les personnalités qui sont représentées ou celles dont les silhouettes sont tracées dans les grands romans de Mademoiselle de Scudéry peuvent être flattées. Or, on va quand même chercher qui est le modèle. Donc c'est un jeu de société. Voilà, ça c'est le bon mot. Ça permet aussi... de donner un sentiment d'élite et de reconnaissance au lecteur. C'est une façon d'adouber le lecteur s'il peut comprendre ce que lui dit l'auteur. Quant à la raillerie, elle a une vertu, c'est de ne pas être la langue du pédant. Le pédant ennuie, le pédant est dogmatique, il ne raille pas, il ne parle pas par allusion, il ne parle pas par pointe. Donc ce style que choisit la Bruyère est aussi une façon de s'élever contre... Tous les ennuyeux, les hermocrates, les gens qui coupent les cheveux en quatre et vous assomment d'une science qui n'est pas une science qui respire.
Oui, alors, on peut dire aussi que la Bruyère est une sorte de jalon dans la révolution démocratique au sens de Tocqueville. Évidemment, il ne s'agit pas de dire de lui que c'est un démocrate avant l'heure, mais il incarne ce passage de la société hiérarchique à une société qui deviendra démocratique, dans une société aristocratique, dit Tocqueville, mon semblable est le membre de ma caste, dans une société démocratique, mon semblable est l'être humain en tant qu'être humain. Alors tout ça, évidemment, surgira en pleine lumière avec la Révolution française, nous en sommes loin. Mais Tocqueville... parle de la démocratie en Amérique de Madame de Sévigné. En 1675, les basses classes de Bretagne s'insurgent contre une nouvelle taxe. La répression est féroce et Madame de Sévigné, pour décrire les pendaisons, se livre à une sorte de baninage cruel dans une des lettres à sa fille. Et ce baninage atteste, selon Tocqueville, qu'elle ne conçoit pas et clairement ce que c'est que la souffrance quand on n'est pas gentilhomme. Avec la Bruyère, tout change, 1685, et il y a cette maxime absolument extraordinaire. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Ils montrent une face humaine, et en effet, ils sont des hommes. Et dans les grands, il dit ceci, il y en a de tels qui, s'ils pouvaient connaître leurs subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer. Autrement dit, les hiérarchies, pour lui, ne sont plus naturelles, mais conventionnelles. Elles relèvent de l'artifice, et c'est pourquoi il peut les critiquer ou les railler. Donc il y a quand même un basculement qui s'opère avec La Bruyère et qui annonce déjà les philosophes du XVIIIe siècle, Jean-Michel de La Comté.
La question, ça me semble absolument essentiel pour aborder La Bruyère, a fortiori au regard de notre temps, c'est la question de l'égalité. Pour rebondir sur ce que vous dites, vous savez comment se terminent les caractères? L'avant-dernier fragment, c'est celui-ci. Il écrit ceci. Mettez l'autorité, les plaisirs et l'oisiveté d'un côté, la dépendance, les soins et la misère de l'autre, où ces choses sont déplacées par la malice des hommes, où Dieu n'est pas Dieu. Et il ajoute, une certaine inégalité dans les conditions qui entretient l'ordre et la subordination est l'ouvrage de Dieu, ou suppose une loi divine. Une trop grande disproportion est telle qu'elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage ou la loi des plus forts. C'est-à-dire que la question de l'égalité, de l'inégalité, me paraît tout à fait centrale, effectivement, dans les caractères. Sous cet angle, je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il y a de sa part une véritable empathie, pour prendre un terme moderne, à l'égard des malheureux. C'est le texte sur les paysans que vous avez lu, où ils sont transformés eux-mêmes en objets, en choses, en quelque sorte. Et je note, par ailleurs, que les grands, contre lesquels il fournit une charge sanglante, au point de dire, les grands n'ont, le peuple, dit-il, n'a pas d'esprit, n'a guère d'esprit, mais les grands n'ont point d'âme. Ce sont comme des automates, ce sont comme des marionnettes presque qui sont agitées et qui n'ont point d'âme, n'ont pas de sensibilité, n'ont pas la capacité à sentir et à comprendre l'autre. C'est absolument terrible pour des élites. Alors donc, il se trouve lui-même, La Bruyère, en état de témoin de cette situation, dont je dirais simplement, il est d'autant plus puissant, à mon avis, tellement plus puissant, tout simplement, dans sa dénonciation de la situation, qu'il l'éprouve et qu'il l'a éprouvé lui-même dans sa propre chair, lorsqu'il était confronté au grand en tant que précepteur. Donc c'est pas un intellectuel sous cet angle. C'est un essayiste, c'est un homme qui essaie de dire et qui ne cesse d'essayer de dire, mais ça passe par le corps complètement. C'est toujours incarné. C'est pour ça que sa langue est si forte. C'est toujours incarné.
C'est toujours incarné et on a l'impression que La Bruyère se situe vraiment à la charnière de deux mondes parce qu'il dit une certaine inégalité est voulue par Dieu. Et là, je voudrais citer Robert Le Gros dans son livre « L'idée d'humanité ». Quand les hiérarchies sont vécues par naturel, on dit qu'en effet, c'est par nature que ceux qui sont plus proches du divin se consacrent au commandement et à la vie spirituelle, et que ceux qui sont plus bas sont condamnés à obéir et à accomplir les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins corporels. Et puis, ça change, et l'on se rend compte, je cite encore Robert Le Gros, que la puissance et le faste sont maintenant l'effet d'une mise en scène. Un artifice qui cache le fondamental, la similitude des hommes. Et il est vraiment à ce moment charnière, parce que vous avez dit qu'à un moment donné, il dit « je veux être peuple ». Alors je vais citer la maxime ou le texte, le fragment tout entier. « Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposés, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal, un grand ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux. L'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses qui sont utiles, l'autre y joint les pernicieuses, là se montre ingénument la grossièreté et la franchise, ici se cache une sève maligne et corrompue sous l'écorce de la politesse, le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme. Celui-là a un bon fond et n'a point de dehors. Ceux-ci n'ont que des dehors et qu'une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne balance pas. Je veux être peuple. » Alors peut-être d'ailleurs, se fait-il une idée un peu chimérique du peuple. Il n'empêche, la Bruyère a fait son choix. Laurence Plasnet.
Oui, alors la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un livre qu'il compose pour corriger les vices de ses contemporains. Et il explique assez bien dans un certain nombre des remarques qui constituent le volume, qu'il force le trait pour faire prendre conscience des injustices de son monde, de sa société, et provoquer l'envie d'un renversement. Donc je pense qu'il ne faut peut-être pas trop projeter non plus des sentiments personnels de la Bruyère. Il y a aussi toute une part de dessin rhétorique et d'intelligence pédagogique quant à la façon dont il convient de s'adresser à ses lecteurs pour les amener à prendre conscience de ce qui est intolérable. La deuxième chose, c'est qu'il s'exprime certainement aussi en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, la société française de l'époque a atteint le terme d'une disproportion. Le mot est absolument capital. On entend évidemment la disproportion de l'homme pascalienne derrière. Et c'est cette disproportion qui fait que l'État contemporain est absolument inacceptable aux yeux...
Disproportion, c'est-à-dire inégalité ?
Oui, une inégalité qui n'a plus de mesure. La Bruyère est un aristotélicien. Pour lui, c'est la médiocritas, la juste mesure, le juste milieu qui est la valeur suprême. Donc quand il n'y a plus de juste milieu, quand il n'y a plus d'équilibre, mais que certains ont tout et d'autres ont rien, alors le devoir consiste à s'indigner. Pas seulement parce que soi-même on a été blessé, mais c'est son devoir de chrétien. Et c'est certainement en raison de son christianisme aussi qu'il réagit de cette façon, parce qu'on observe le même discours chez un certain nombre des auteurs, par exemple proches de Port-Royal. C'est un discours augustinien. La question, c'est pas de savoir au fond si c'est Bossuet, le Petit Concile ou un entourage proche de Pascal. C'est un discours fondamentalement chrétien et augustinien qui fait que l'on ne peut pas tolérer cette inégalité violente entre des créatures humaines. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a chez la Bruyère le parti pris au fond de la première épître aux Corinthiens, c'est-à-dire qu'on renverse, les premiers seront les derniers. Et quand il tient ses propos cinglants à l'égard de l'élite, c'est une façon de dire que ceux qui ont tout, ceux qui se croient tout, ceux qui s'autorisent tout, on va les jeter à terre et leur rappeler qu'ils ne sont rien du tout. Il y a un refus du pharisianisme chez la Bruyère qui est violent et qui est profondément chrétien et catholique. Peut-être qu'on a oublié, d'ailleurs, vous parliez de la Révolution française, sa source chrétienne et catholique, parce que l'abbé Grégoire, c'est quand même un proche, justement, de Port-Royal, c'est un augustinien, et il faut se souvenir de ce que Saint-Simon rapporte dans les mémoires. Louis XIV dirait que Port-Royal était républicain.
Oui, mais alors, c'est intéressant que vous insistiez sur cette dimension catholique de la Bruyère, puisqu'en effet, le dernier chapitre des caractères est intitulé « Des esprits forts ». Et il entre en querelle avec les libertins, avec ceux qui croient qu'on peut se passer de Dieu. Et il est très sévère avec eux, Jean-Michel de la Comté.
Oui, il est très sévère. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cela étant, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que cette voix continue à porter? Donc, sur tout l'arrière-plan, Laurence, que vous avez défini, encore une fois, entièrement d'accord. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la Bruyère. C'est-à-dire ce texte-là qui nous est parvenu, c'est une voix particulière. Alors, en effet, ça se termine, les caractères se terminent par cette longue dissertation, assez animée d'ailleurs, contre les libertins. C'est tout à fait central, c'est tout à fait évident, d'autant plus qu'il y a aussi la lutte contre Fontenelle, et c'est le combat des anciens, des modernes qui s'inscrit. On va y aller. Bon, mais n'oublions pas que le premier chapitre, ça porte un nom, c'est « Des ouvrages de l'esprit ». Et dans les ouvrages de l'esprit, il parle de lui en tant qu'auteur. Et donc, c'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait que si on dit que la Bruyère est un styliste, si sa voix est venue jusqu'à aujourd'hui avec une telle force, au point même que maintenant, il va être présenté pour l'agrégation, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Mais parce que justement, c'est une voix qui passe par ce qu'il a ressenti. C'est un homme de cœur. La Bruyère. C'est ça qui me semble tout à fait essentiel. Un homme de cœur, un homme de corps. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le lire. Sa voix, elle porte.
Oui, mais elle porte aussi du fait de la pertinence,
bien sûr,
de la justesse, la profondeur du propos. Alors, en effet, il entre en polémique avec les esprits forts. Il est profondément chrétien, mais il a aussi cette maxime extraordinaire, un dévot, et celui qui, sous un roi athée, serait athée. Je trouve ça absolument magnifique, c'est-à-dire qu'il met en garde contre les facilités du conformisme. Nous pensons telle ou telle chose, et nous nous sentons supérieurs aux générations précédentes qui pensaient autrement, mais elles le pensaient avec la même évidence et le même conformisme que nous. C'est magnifique. Un dévot sous un roi athée serait athée. Ça, évidemment, ça donne infiniment à penser, et justement, ça nous conduit à faire un portrait de nous-mêmes.
Je crois que c'est parce que le dévot est dans la posture.
Oui, tout à fait.
C'est une vanité d'être un dévot. C'est se montrer comme un homme qui a la foi, qui prétend avoir une vérité. Le vrai chrétien n'a pas besoin d'être un dévot.
C'est la facticité.
C'est autre chose. Voilà, c'est tout à fait autre chose.
L'inauthenticité.
Donc il se révolte contre une posture qui lui est intolérable parce que c'est une prétention.
Alors, vous dites, en effet, il y a un sentiment chrétien chez lui, mais La Bruyère annonce les philosophes du XVIIIe siècle, il y a une sensibilité démocratique au sens de Tocqueville qui a quelque chose de prémoderne, voire de moderne. Or, dans la querelle des anciens et des modernes, qui a divisé dans toute l'Europe la République des lettres pendant au moins un siècle, La Bruyère prend résolument le parti des anciens dès le début des caractères. Tout le monde connaît cet incipit. Tout est dit et l'on vient trop tard, depuis qu'il y a des hommes et qui pensent. Et dans son discours de réception à l'Académie française, il fait l'éloge des anciens parmi les académiciens, La Fontaine, Racine, et les autres n'existent pas. Ça a créé un véritable scandale. Alors, je voudrais que vous nous rappeliez, Jean-Michel de La Comté, le sens et les enjeux de cette querelle et les raisons pour lesquelles La Bruyère avait pris le parti des anciens, Jean-Michel de La Comté.
Alors, il est vrai d'ailleurs que la publication de ces caractères intervient au moment même où la fameuse querelle éclate. C'est-à-dire que lui s'en explique d'ailleurs dans ses grandes lignes de quoi il s'agit. Il s'agit pour lui de respecter les règles des anciens qui servent de modèle. Les anciens, pour aller vite, parce que c'est une affaire assez compliquée quand même tout ça, mais pour aller vite, les anciens présentent un modèle de perfection qui est insurpassable. Donc, il s'agit au mieux les imiter, mais on ne pourra pas les dépasser. Alors, est-ce que ça veut dire, alors que les modernes considèrent, notamment pour l'éloge de Louis XIV, qu'il faut inventer, en quelque sorte, un autre discours? Et les modernes disent, le siècle de Louis XIV vaut largement, voire dépasse, le siècle d'Auguste, alors que les anciens vont dire le siècle d'Auguste, des Romains donc, est égal au moins à celui de Louis XIV.
Respect. Mais c'est ce que dit notamment Perrault, oui, mais dans le siècle
tout
de
à
Louis
fait.
Grand.
Exactement. Mais alors, la question, on va se dire, tiens, je vais prendre des termes aujourd'hui qui sont galvaudés. Bah alors, après tout, les anciens et La Bruyère au premier chef, c'était des réacs, quoi. C'était des ringards. Mais pas du tout. Parce que la question qui se pose, et c'est une question qui se pose, à mon avis, toujours aujourd'hui. Il est ancien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun progrès possible? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire autrement ce qui a été dit? Alors il dit si, on peut dire, simplement, il y a une sorte de limite qui est la perfection même des anciens, ça se voit au théâtre par exemple, et Racine a la même position, mais cependant, dans le cadre de cette perfection qui est accomplie, on peut cependant dire autrement les choses, simplement, on ne dépassera pas la perfection qui a été accomplie par les anciens. Mais ça ne veut pas dire que l'avenir est fermé, ça ne veut pas dire que la nouveauté est impossible, pas du tout, simplement, il y a un modèle, parce que nous sommes tous des héritiers, voilà ce qu'il dit.
Oui, il y a d'abord cette image qui vient du Moyen-Âge, où les modernes sont des nains, mais juchés sur les épaules des anciens, qui sont des géants, ils verront plus loin que leurs prédécesseurs. Donc l'idée du progrès postule même que l'on n'oublie pas les anciens, qu'on réfléchisse à l'avenir ou aux contemporains à partir d'eux, déjà. Et puis, dans les exemples que vous donniez, il était tout à fait clair que les partisans des modernes veulent louer le roi, mais ils sont du côté de la flatterie, la courtisanerie, d'une forme d'asservissement. Dire qu'on est un ancien permet un détour, permet une distance, permet de conserver sa liberté, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit très bien comment on a une révolution qui se produit dans les modèles anciens qui sont employés au cours du XVIIe siècle avec la querelle. On n'utilise plus les mêmes auteurs, c'est-à-dire qu'au départ, l'antiquité qui est lue, c'est souvent une antiquité impériale, qui permet par exemple à Louis XIV de se faire peindre par Mignard en Alexandre le Grand. Et après la querelle, l'antiquité à laquelle on s'intéresse, et ça c'est un prélude à la Révolution, va être l'antiquité des orateurs. L'antiquité où on parle de philosophie, ça va être Cicéron, ça va être les orateurs athéniens, Périclès, etc. On change de pôle d'auteur. On ne lit plus les mêmes. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et le monde des anciens devient le monde, au fond, de la liberté de penser. On peut proposer des exemples, des solutions politiques que le présent ne permet pas d'explorer pour le moment, mais qui ont eu lieu au cours de l'Antiquité. Et ça devient même le ferment de la modernité. Alors, je suis une agrégée de lettres classiques, je plaide un tout petit peu pour ma chapelle. Il est clair qu'à chaque fois qu'on a des pouvoirs dans lesquels on veut qu'on ne pense pas trop, on commence par réduire les places à l'agrégation de lettres classiques.
Oui, en effet,
c'est très très gênant d'avoir des gens qui pensent avec un peu de perspective et un peu de distance. C'est ce que permettent de faire les anciens, et la Bruyère le rappelle.
Alors, pour aller dans votre sens, je voudrais citer... le plus beau résumé qui soit de la querelle des anciens et des modernes, c'est Jonathan Swift, le récit complet et véridique de la bataille livrée vendredi dernier entre les livres anciens et les livres modernes dans la bibliothèque St. James. C'est la célèbre apologue de l'abeille et de l'araignée. Une araignée gonflée jusqu'au dernier degré de magnitude par la destruction d'un nombre indéfini de mouches, dont les dépouilles gisaient en désordre devant les portes du palais comme les ossements humains devant la caverne de quelque géant, cette araignée, eh bien, voit ses constructions dérangées par une abeille qui vient tout mettre sens dessus dessous. L'araignée est folle de rage, elle injurie l'abeille, qui ne sert strictement à rien, qui ne possède rien de son propre fond, alors que elle, l'araignée, construit sa demeure grâce à ses savants calculs, avec des matériaux qu'elle a entièrement puisés en lui-même. L'abeille lui répond très violemment: « C'est vrai, je rends visite aux fleurs qui éclosent dans les champs, et tout ce que j'y puise et collecte m'enrichit, sans porter le moins du monde atteinte à leur beauté, à leur parfum, à leur saveur. Quant à votre compétence en architecture et mathématiques, j'en dis seulement ceci, dans votre édifice, il peut bien y avoir du travail et de la méthode, mais je viens d'en faire l'expérience, les matériaux sont nuls, et j'espère qu'à l'avenir, vous prendrez autant en considération la durée et la substance que la méthode et la technique. » Donc, il s'agit d'un combat. Les anciens ne refusent pas toute forme de nouveauté, mais ils affirment la nécessité du détour par les œuvres contre l'image rectiligne et conquérante du progrès indéfini de la raison, contre l'orgueil cartésien qui prétend le sujet cartésien qui prétend tout tirer de lui-même. C'est aussi ça, la querelle des anciens et des modernes. Donc les anciens ne sont pas hostiles à la nouveauté, ils la conçoivent autrement.
Complètement. Ça permet de ne pas être naïf. Depuis 2000 ans qu'on parle, tout est dit, mais savoir ce qui a été dit auparavant permet précisément d'essayer de placer la balle, pour reprendre l'expression de Pascal, et c'est également ce à quoi fait allusion la Bruyère, de manière différente. Ça contraint à se renouveler, ça contraint à être plus exigeant. Si on ignore ce qui a été dit auparavant, on va juste répéter, et l'humanité n'a fait rigoureusement aucun progrès. L'ignorance ne permet jamais d'avancer.
Oui, et alors, cela étant, j'ai trouvé une illustration singulière de cette phrase célèbre de la Bruyère « Tout est dit ». C'est une réflexion de Jacques Bainville que je vous soumets. Ce qui est curieux, ce n'est pas tant qu'on ait tout dit, mais qu'on ait tout dit en vain, de sorte que tout est toujours à redire. Et il est vrai, on peut penser ça. Il y a des choses qui ont été dites, des œuvres qui ont été proposées, cinématographiques ou littéraires, qui auraient dû éclairer les hommes, et en même temps, tout se répète. Si vous voulez, moi je pense par exemple à M. le Maudit, de Fritz Lang. C'est une démystification du phénomène du bouc émissaire. C'est absolument extraordinaire. C'est pas pour autant que les curés ont cessé, et on le voit bien aujourd'hui, au contraire. Donc c'est une manière, c'est une illustration inattendue, paradoxale, de la réflexion de La Bruyère, Jean-Michel de La Comté.
Pour rebondir d'une façon qui me semble naturelle et logique, je vous lis simplement le dernier fragment du mérite personnel, qui est le deuxième chapitre, dans lequel La Bruyère écrit ceci. Horace ou Despréau, c'est-à-dire Boileau, l'a dit avant vous, je le crois sur votre parole. Mais je l'ai dit comme mien, ne puis-je pas penser après eux une chose vraie et que d'autres encore penseront après moi. Donc les choses se disent, mais il y a des formulations qui peuvent être différentes, distinctes. Et en effet, on reprend comme ça des idées qu'on remodèle, c'est-à-dire c'est en même temps, on conserve la preuve, hein, Horace, Despréau, on conserve ce qui a été, et cependant, on le renouvelle parce qu'on le retravaille. C'est aussi d'ailleurs certainement le résultat et la nécessité du travail. Et lorsqu'il y a par rapport à ce que vous disiez là sur Swift, en vous écoutant, je me disais, ça rappelle tout à fait ce que dit La Bruyère lui-même en disant la nécessité de l'éducation. Il est pédagogue précepteur, il faut être éduqué pour justement savoir ce qu'on va puiser, connaître, et sur ce fondement, on va pouvoir établir et se renouveler soi-même et penser par soi-même, mais il faut du matériau préalable. Et à l'heure aujourd'hui où la culture générale est en quelque sorte éliminée des grands concours des politiques, enfin de ceux qui sont...
Oui, notamment du concours de Sciences Po.
En particulier. Ça pose une vraie question. Ce que disait Laurence Plasnet tout à l'heure, à très juste titre, c'est cette nécessité de l'éloignement par la culture. Si on perd ça de vue, on aura, ce qui est de plus en plus le cas, le nez dans le guidon. Et dans le mur, bientôt.
Oui, il ne s'agit pas du tout d'un stockage, parce qu'il y a un des caractères qui est passionnant, dans lequel La Bruyère décrit un homme qui a une bibliothèque, et il l'entraîne pour voir sa bibliothèque. Et au début, La Bruyère est plutôt séduit à l'idée de découvrir cette formidable bibliothèque. Et en réalité, il est pris au nez par l'odeur des cuirs, par l'odeur des produits pour entretenir les cuirs, et il termine en disant « il m'a emmené dans sa tannerie ». Donc des livres qui sont entassés, les uns sur les autres, mais qui ne sont pas animés par l'esprit, qui ne sont pas source vive, ça n'a pas de valeur pour un ancien non plus. C'est une culture qui doit vivre, qui doit être lue, interprétée, peut-être même de travers parfois, et puis revenir, ressusciter à travers d'autres œuvres. C'est ce qui fait dans les caractères. Les caractères doivent leur titre au caractère de Théophraste.
Oui,
tout à l'heure, on a parlé des Iroquois tout au début. Les Iroquois, il est impossible de ne pas voir qu'ils dialoguent avec Montaigne à ce moment-là. Et Montaigne est tout le temps présent dans les caractères. Et je crois que Pascal est tout le temps présent aussi. C'est un texte qui dialogue avec les autres. Et c'est aussi l'ouverture de ces littératures qui sont des littératures... investi par le passé, des livertures nourries de culture, c'est que justement, elles dialoguent tout le temps. Oui. Elles ne sont jamais solipsistes.
Alors, ce qui personnellement m'a donné envie de dialoguer avec La Bruyère, c'est la relecture du temps retrouvé de Proust. La Bruyère est présent dans La recherche du temps perdu, et Proust cite à un moment donné cette phrase qui est sans doute, pour moi, la plus admirable maxime française. Et je voudrais vous la soumettre. Les hommes, souvent, veulent aimer et ne sauraient y réussir. Ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer. Et si j'ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Que signifie-t-elle pour vous, Jean-Michel de La Comté? C'est pas une colle, hein.
Non, c'est pas une colle. D'abord, ça fait rêver. Parce que ce qu'on oublie un petit peu, c'est que La Bruyère aussi, comment le lire? J'oublie pas du tout votre remarque, mais comment le lire? C'est quelqu'un qui incite à rêver. Et on parle, quand on parle de l'ouverture et du dialogue, la façon dont les caractères sont constitués, c'est-à-dire par fragments, mais comme chez... c'est l'essai, ça. Typiquement, c'est l'essai. C'est l'antisystème. Bon. Eh bien, en amour, c'est un peu la même chose, si je puis dire. L'amour ne peut... Enfin, c'est pas un artifice quand je dis ça. Ça reste ouvert. Et en même temps, il y a une cette fidélité. Enfin, c'est je sais pas tellement répondre au fond comme ça avec Sabrupto.
Mais qu'est-ce que parce que je veux dire, moi j'adore cette phrase parce que à une époque où on célèbre très justement l'autonomie,
oui, oui,
la liberté comme la valeur des valeurs, peut-être que mon interprétation est fausse. Ce que me dit cette phrase, c'est qu'il y aurait comme une sorte d'aliénation positive. On est défait par l'amour, puisque de toute façon, on est subordonné à quelqu'un, on est pour quelqu'un d'autre. Et quand on ne connaît pas cela, on est contraint de demeurer libre. Mais peut-être suis-je en train de forcer l'interprétation de ce syntagme, de ce morceau de phrase. Ils cherchent leur défaite. Mais voilà moi comment je lis cette phrase et pourquoi je la trouve si profonde, pourquoi elle m'émeut tant. Vous en citez une autre, justement, sur l'amour, Jean-Michel de la Comté.
Oui.
Être avec des gens qu'on aime, cela suffit. Rêver, leur parler, ne leur parlez point. Penser à eux, penser des choses plus indifférentes, mais auprès d'eux, tout est égal. Laurence Blasney.
Alors la première chose, moi, qui me frappe dans la première phrase que vous avez lue, c'est la question de la liberté. Je crois que ce que dénonce la Bruyère, c'est la volonté des hommes de ne pas être libres. L'homme veut faire troupeau. L'homme veut servir à des modes en permanence, à des comportements, à des usages tout à fait arbitraires dont il montre le grotesque.
Oui, mais pas dans cette phrase.
Mais il dit qu'on découvre la contrainte de la liberté.
Ils sont contraints de demeurer libres parce que les pauvres, ils sont seuls. C'est une liberté triste, mais, alors que leur défaite...
Mais peu importe, c'est la liberté.
Serait peut-être...
C'est la liberté, justement. Il faut savoir s'accommoder d'une liberté, même triste, même difficile.
Vous ne pensez pas que l'amour représente autre chose que l'alternative liberté-servitude?
Je pense que dans le contexte...
Et que c'est cette autre chose qui nous fait ressentir à ce moment-là.
Il me semble que dans le contexte de la Bruyère, qui est aussi celui de Madame de Lafayette, par exemple, ce qu'il s'agit de faire, c'est de dénoncer l'idée que l'amour est quoi que ce soit de lié avec la possession. L'amour est quelque chose qui vous laisse totalement libre et qui laisse l'autre totalement libre, jusqu'au refus, jusqu'au mépris, jusqu'au manque. On peut manquer une histoire d'amour. Et je crois que ce sur quoi insistent ces auteurs, c'est que ça n'est pas du ressort de la possession et qu'il faut apprendre à aimer dans la dépossession.
Oui, mais la dépossession, d'accord, mais ça voudrait dire peut-être que on ne possède pas dans l'amour, mais on a quand même le sentiment d'être possédé. C'est aussi cela, l'amour. Et c'est en cela, peut-être, que l'amour est une défaite de la liberté. Enfin, peut-être, je tire les choses vers ce que je pense, je sais pas, peut-être.
Pour les auteurs de cette époque, il faut se souvenir que d'abord, le problème, c'est la légitimité de l'amour humain.
Bien sûr.
Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour humain est une captation, une déviation d'un véritable amour qui est dû à Dieu. Et l'amour a besoin d'un infini qu'aucune créature ne saura satisfaire. D'où la nécessaire déception.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et en même temps,
Jean-Michel
quand même, encore une fois, c'est tellement prégnant hein, dans chez quelqu'un comme la Bruyère notamment, qui est profondément chrétien. D'ailleurs, c'est une foi de charbonnier, hein, parce qu'il dit j'ai appris en quelque sorte, ça m'était enseigné lorsque j'étais gamin. En gros, hein, je résume, et je crois en Dieu parce que j'ai appris à croire quand j'étais petit. Mais cela étant dit, il y a chez la Bruyère indiscutablement, il y a une interrogation, en tout cas, une évocation de l'amour, notamment, peut-être principalement, en relation avec le mariage. Et lorsqu'il dit, il oppose par exemple l'amourette, la justification de ce qu'il appelle des amourettes, mais en fait c'est une justification du langage amoureux, du mariage amoureux. Il s'étend pas tellement
là-dessus. C'est un mot qu'on trouve chez saint François de Sales. Hein. Je pense que ça vient de la filoter.
Oui, c'est pas si bien ça. Hein. Mais lancer des choses. Mais il y a en opposition au sentiment amoureux qu'il valorise. Il y a le mariage arrangé, qui est un mariage d'argent et qu'il trouve insupportable. Alors quant à lui, simplement une petite remarque sur biographique, si je puis dire, concernant la Bruyère. Est-ce qu'il a été amoureux lui-même? est-ce qu'il a aimé lui-même? Parce qu'encore une fois, on ne parle que de ce qu'on ressent. C'est ce qu'il fait, lui. Il n'écrit pas seulement avec sa tête, il écrit, encore une fois, j'y insiste sans cesse, il écrit avec son corps, avec son cœur, avec ses nerfs, avec sa sensibilité. C'est un écorché vif, la Bruyère. Sinon, il ne nous intéresserait pas.
Si on lit le chapitre du cœur, dans votre perspective, on pense quand même qu'il a aimé.
Je crois, oui.
L'amour commence par l'amour, et l'on ne saurait passer de la plus forte amitié qu'à un amour faible. Et puis, il a aussi ceci, il était chrétien, mais il dit, on ouvre un livre de dévotion et il touche, on en ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression. Voilà. Oserais-je dire que le cœur seul concilie les choses contraires et admet les incompatibles.
Exactement.
Donc, c'est une manière pour lui, face justement à la foi, à la... De réhabiliter l'amour.
Mais absolument.
Puisqu'il le met presque à égalité. Le cœur concilie les incompatibles.
Mais
il fait partie de ces auteurs, avec Madame de Lafayette, me semble-t-il, pour qui l'amour de la créature commence à être un préalable de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose de totalement pré-claudélien chez Madame de Lafayette, notamment. Et on en trouve peut-être des échos aussi chez La Bruyère.
Sans oublier qu'il était ami de Madame de Lafayette.
Bien. Eh bien voilà, nous terminerons sur l'amour. Merci beaucoup Laurence Plaznay et Jean-Michel de la Comté. Je rappelle le titre de votre livre, La Bruyère, portrait de nous-mêmes. Il est publié chez Robert Laffont. Et je signale, Laurence Plaznay, que vous organisez un colloque intitulé Port-Royal, littérature et cinéma avec Constance Cagnat-Deboeuf et Tony Guérard. Et ce colloque aura lieu au lycée Louis-le-Grand, les 16 et 17 octobre, et au Collège des Bernardins, le 18 octobre 2019. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Peut-on vieillir heureux ?» et mes invités seront Pascal Bruckner et Robert Redeker. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac, à la technique aujourd'hui Claire Levasseur, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.